En 2022, les rendez-vous de la francophonie célèbrent les traditions.
Que ce soit les traditions familiales, orales ou culinaires, ça fait partie de nos vies.
Nive et moi, Elisapi, sommes les porte-parole des RBF 2022.
Et on part à la découverte des traditions. Bonjour à tous, alors on est là encore une fois, Yves et Elisapi pour les rendez-vous de la francophonie. On parle de tradition et on va parler, Elisapi, de tradition culinaire. Alors, est-ce que tu as des traditions en cuisine? Et si oui, d'où elles viennent ces traditions? C'est quoi les origines?
Évidemment, quand on parle des Inuits, Yves, très différent. On avait dit qu'on était très proches.
Pas au niveau de la bouffe.
Au niveau de la bouffe, on va s'éloigner beaucoup parce que chez nous, il fait froid. Hein? Oui. L'hiver est long. On a une tradition des chasseurs qui n'ont pas besoin de congélateur. Évidemment, je viens de la toundra aussi. Hein? Alors, quand on parle du nord, ben, on n'a pas d'arbres. Exact. Alors, il y a des Inuits plus au sud de chez nous, comme Akuduak, par exemple, qui chassent le lacobed. C'est un genre de perdrix, mais c'est la viande rouge, c'est un oiseau qu'on peut beaucoup attraper à Akuduak parce que il y en a beaucoup, ils sont un peu plus gros parce qu'ils sont un peu cachés en arrière des petits, ces mini arbres.
Buisson.
Oui, c'est ça, exactement. Et là, c'est drôle parce que ça, c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter. C'est que j'avais un petit copain qui venait de Côte d'Ivoire. Il débarque au printemps dans mon village. Évidemment, toute la famille arrive, ma tante, mes tantes, mon oncle, parce qu'il a dit que j'avais beaucoup de lacobed, arigir qu'on appelle, et ils sont super contents parce qu'on en a, mais disons qu'on en a beaucoup moins. Tu sais. Alors, il débarque, il amène la boîte, évidemment, c'est frais, ça a été au frais. Et là, il commence, mes tantes, il se met à genoux par terre, il met dans un carton de boîte et il commence à le défaire un peu comme, tu sais, enlever
les plumes.
Les plumes et tout ça. Il prépare, puis lui, super content, il voit comment ils sont vraiment heureuses, mes tantes. Et là, il dit, ben. Ça avance pas, la cuisine avance pas, le four est pas allumé, il y a rien de préparé, ils font ça et ils commencent à le manger, évidemment, direct cru. Et lui, il réalise, oh my God, ok, c'est vrai, on débarque chez les vrais, là.
Ouais, là, on est dans le roots, là.
Ouais, on est le roots, puis c'est comme ça qu'on le mange, comme on mange le phoque, préférablement, on le mange cru. Parce que c'est un peu comme manger du tartare, c'est la même affaire, mais avec quelque chose qui est si, on a tout ce qu'on a besoin pour survivre depuis des millénaires, mais ça se passe dans cette tradition jusqu'à maintenant, c'est comme ça chez nous, tu sais, mon enfance, c'est de pouvoir avoir un petit bout de foie, de phoque, puis le manger, c'est comme si notre corps un craving pour ça.
Ben oui.
Historiquement, c'est comme ça et c'est encore comme ça. Alors, quand on parle des traditions de cuisine, ben, souvent, les mets qu'on aime le plus, c'est cru au départ.
Mais j'ai une question parce que tu as dit tartare. Okay, tartare, c'est cru aussi, mais c'est super assaisonné, right? Des fois, c'est épicé, c'est très salé, etc. Ouais. Avec quoi vous assaisonnez, mettons, un morceau de phoque cru? Est-ce que c'est assaisonné ou c'est direct?
On n'a pas besoin d'assaisonner parce que tout le goût qui est tout ce que tu as besoin, il est là. Tu sais, le phoque, c'est même au-delà d'assaisonnement, c'est tellement riche au niveau du goût que tout est là, tu sais.
Tout est là, c'est incroyable.
Non, on a découvert qu'on mange la peau de beluga, par exemple, quand on le mange un peu cru, comme un sushi, ben, on a découvert le sauce soya. Alors, je trouve que ça marie bien, mais pas avec n'importe quoi, vraiment avec le beluga. Le reste, on peut mettre un peu de sel quand on mange de caribou cru, congelé, évidemment. C'est préférable congeler le caribou cru. Ouais.
Wow. Non, on est vraiment loin à ce niveau-là, au niveau
Oh!
cuisine.
Et toi, ben, t'es un vrai cuisinier aussi, là, évidemment, avec beaucoup de saveurs, que j'adore la bouffe méditerranéenne, moi, là.
Ouais, c'est ça. Et c'est beaucoup de mijotés, beaucoup de, tu sais, des pièces de viande qui cuisent pendant longtemps. Tu sais, moi, je veux dire, moi, ben, comme les gens ne peuvent pas voir, mais je suis quand même un petit dodu. J'aime manger, j'ai toujours voulu manger. Et j'aime découvrir, j'ai mangé de la cuisine d'à peu près partout dans le monde, mais je remarque une des cuisines les plus riches au niveau des différentes saveurs, ça reste pour moi la cuisine marocaine. Je trouve qu'il y a un éventail de différentes façons de faire les choses. Tu sais, je veux dire, la bouffe italienne, bien sûr, il y a plein de cuisines régionales, etc. Mais ça tourne toujours autour d'à peu près la même chose. De la viande, du poisson, c'est méditerranéen, des pâtes, bien évidemment, etc. D'où ça va vraiment dans tous les sens. Et ma mère était très aventurière comme cuisinière. T'sais, elle nous faisait de la cuisine de partout. Mais le vendredi soir et le samedi midi, qui sont le Shabbat, le jour où on se repose, si tu veux, ça, c'était toujours très traditionnel. Il y avait toujours de la bouffe du Maroc. Alors, par exemple, au Québec, il y a le pâté chinois. Ouais, steak, blé de patate. Nous, on fait ce qu'on appelle la pastella. C'est un pâté chinois sans maïs, en fait. C'est de la viande hachée et de la pomme de terre. Mais la viande hachée est super épicée, pas dans le sens piquant, mais dans le sens avec des épices. Il y a du cumin, il y a du paprika, il y a beaucoup d'ail. C'est très goûteux, là. Donc, moi, par exemple, c'est des plats que j'adore, là. J'en ai même fait une recette pour le site des rendez-vous de la francophonie, des boulettes aux petits pois, mijotées avec du cumin et du paprika. Tu sais, moi, ce goût-là, c'est la maison. Ça me réconforte. De la même manière que, je sais pas moi, shepherd's pie, ça réconforte des gens. Une pastella, moi, quand je mange ça, c'est vendredi soir chez ma mère. Donc, je trouve que c'est des traditions qui sont importantes de transmettre aussi. Tu vois, parce que autant je regarde Food Network et j'ai aimé apprendre comment faire un risotto, ben, là, en vieillissant, j'appelle ma mère. Dis-moi, comment tu fais l'ajout de bœuf avec les pois chiches, là, tu sais, des recettes super précises. Et tu réalises que des choses qui effraient certains parce qu'ils n'auront jamais goûté. Je suis sûr que quand tu dis à quelqu'un, hey, ben, allez, on va manger du phoque cru, il doit pogner de quoi. Mais chez nous, pareil. T'sais, on mange tous les abats, par exemple. Le foie, le cœur, les brochettes, le cœur, la cervelle, les tripes. Moi, j'ai des copains qui ont tourné de l'œil en voyant arriver de la langue à table, t'sais, la langue de bœuf. Mais pour nous, c'est genre, comment on dit, delicacy. C'est comme quelque chose de waouh, il y a de la queue de bœuf. Oh my God, on capote là. Donc, nous, il y a beaucoup de ça dans la cuisine et c'est un goût qui se développe. Hein. Quand tu es jeune, tu manges du blanc de poulet. Mais en vieillissant, tu commences à rentrer dans les trucs plus funky là. C'est le fun.
Mais moi, ça me fait saliver. J'ai mon copain qui est français et évidemment, il vient plus de Gers. Alors, tout ce qui est méditerranéen pour lui, il y a un lien aussi. Alors, moi, je pense que j'aurais été une Inuk méditerranéenne. Je l'ai peut-être, même
Écoute,
ma gustative, là, ça me
il n'est
parle.
jamais trop tard pour s'installer, mec. Moi, je te dis, va vers le sud de la France, represent.
Ah ouais, c'est clair. En tout cas, j'aime tout ce que tu dis là. Ça me parle vraiment beaucoup. C'est drôle, hein?
Écoute, je dirais à ma mère de nous préparer un bon plat et je t'amènerai. Et toi, Elisapie, comment tu vois le mélange de toutes ces origines-là? Clairement, tu vis aujourd'hui au sud, hein, comme vous dites chez vous. Tu viens avec tout ton bagage, ton mari est français, enfin ton chum est français. Comment tu mélanges tout ça? Est-ce qu'il y a une soirée inuite à la maison où vous mangez du phoque ou ça dépend avec ce qui est au marché,
Oh
là?
mon Dieu, c'est sûr que quand on a accès à du bon caribou, à du poisson, on s'arrange pour faire le plus possible, respecter la bonne, t'sais,
Recette.
la bonne recette, le bon Arctic Char. T'as pas besoin de mettre beaucoup de choses, hein. C'est tellement un
Je
poisson.
confirme, j'en ai mangé dans le Nord, c'est spectaculaire. Ouais.
Ouais, c'est le goût. Tu veux pas trop mettre. Tu as besoin juste un petit peu de beurre, un peu d'huile peut-être, du sel. Et c'est à peu près. Si tu veux citron, mais même pas. C'est parce que
C'est très
le bois,
délicat.
le goût, c'est délicat, c'est unique. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais par contre, mon chum, évidemment, quand il est allé dans le Nord, quand la dernière fois il est venu chez nous, ben, lui, en ayant évidemment un français, hein, ça a
Oui.
besoin de cuisiner, ça a besoin de la traduction, de mélanger, d'essayer, ben, il a fait un, il appelle ça le carré bourguignon. Il a fait un
Ah,
carré
c'est bon ça.
bourguignon et ça a vraiment impressionné ma famille. Alors, pour te dire qu'il y a quand même dans ma famille des aventuriers qui aiment découvrir. Alors, c'est ça qui est le fun aussi parce qu'on a pas mal, on a beaucoup de poissons, on a beaucoup on a des moules, on a toutes sortes de trucs de fruits de mer et outils. On a beaucoup de bons viandes aussi qui sont très, très bons. Alors, on aime beaucoup ça mélanger ici chez
Est-ce
nous.
que tu sais, au Québec, il y a beaucoup de chasse d'orignal, de caribou, tout ça. Je veux dire, les gars, ils vont chasser là. Est-ce que, bon, on va raconter une anecdote. Par exemple, quand j'avais été à Raglan, dans les Mines, dans le Nord, il m'avait dit à un moment donné, il y avait un caribou qui passait proche de la mine. Et là, ils ont eu peur parce que ça veut dire que les loups allaient arriver bientôt, etc. Donc, il fallait qu'ils s'occupent et qu'ils tuent le caribou en question. Et le gars, c'était un Québécois là, qui était le garde de sécurité là-bas. Il me dit, écoute, on avait trois employés Inuit qui sont venus, qui nous ont dit, est-ce qu'on peut s'en occuper une fois que vous l'avez abattu, genre? Est-ce qu'on peut le couper, etc. Et il disait la vitesse et la précision avec laquelle ils ont réglé la carcasse, ils ont sorti tous les bons morceaux. Le gars, il n'en revenait pas. Il dit, quand je vais à la chasse avec mes amis, on en perd le trois quarts. Eux, il n'y a pas un poil qui a été jeté, là. C'était malade.
Il n'y en a pas, il y a juste pas possible de jusqu'à l'os,
Exact,
tout
c'est ce qu'il disait. C'était avec un petit couteau
est
rond, là. Il m'a dit, ils ont tout fait ça.
Et la peau du caribou, d'ailleurs, c'est un très bon sous-matelas parce que ça protège évidemment dans le temps, dans les igloos où tu peux le mettre dans ton traîneau. C'est très imperméable, alors tu le mets
Ah.
partout pour couvrir tes choses ou pour pas toucher à la neige aussi, tu sais.
Ouais.
Alors, mais on a grandi comme ça pour moi, de défaire le c'est pas quelque chose qu'on fait loin des enfants, ça se fait right
En
there.
famille, tout le monde là, ouais, c'est ça exactement.
Oui, tout le monde, n'importe qui passe devant un chasseur, devant chez eux, ben c'est ça, ils vont aider, ils vont prendre
Il met la main à la pâte.
le ouais.
Mais nous aussi, c'était ça, quand on était petits, on n'abattait pas de caribou. Mais quand ma mère, elle était à la cuisine, moi, j'ai tellement de souvenirs avec ma mère en cuisine qui me montre comment faire. Ma grand-mère, qui habitait même pas ici, qui habitait en France, à chaque fois que j'allais. Tu sais, ma grand-mère, c'était à l'ancienne, là. Elle avait un tablier quand tu rentrais chez elle, femme de maison, c'est sa cuisine, elle gère ça. Tout est fait maison, le pain, la bouffe, il n'y a pas de liaisage, là. Et j'ai tellement de souvenirs avec elle qui me dit, viens brasser ça, coupe les haricots, va couper. T'sais, donc, nous aussi, ça a été très familial à ce niveau-là. Tout le monde participe, mon père cuisine, ma mère cuisine, tous mes frères et sœurs cuisinent, ben, t'sais, on est à fond
Ah,
là-dedans.
c'est merveilleux. En tout cas, je pense que c'est ça qui est important. Mais nos enfants, d'ailleurs, je ne fais pas des trucs traditionnels aujourd'hui. Je mets mon petit 3 ans, hein, mon petit dernier, là, c'est son deuxième gâteau depuis un mois. Alors, je le fais travailler là tôt, là. Alors, il va faire un bon gâteau carotte,
C'est très bon
là.
avec du
Hein,
crémage.
américain, Philadelphia cream cheese, tout
C'est ça.
ça.
Il mangera du caribou la semaine prochaine.
Exactement.
Alors, rebonjour à tous. On poursuit le podcast des rendez-vous de la francophonie, le grand thème, les traditions. Et là, je suis avec ma collègue Élie Sapi, porte-parole des rendez-vous de la francophonie. Et on va parler de traditions culinaires avec notre expert, Éric Michaud, qui est conteur, conférencier, mais aussi vulgarisateur historique.
Alors, bonjour Eric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. La question, ça, j'ai bien hâte de ce que vous allez répondre là. Comment était la cuisine canadienne dans ses débuts?
Ben bonjour Elisabeth, bonjour Nive, bonjour à tous, très heureux d'être là. Comment c'était au début, hein? Bon, lorsque les premiers colons viennent de s'installer en Nouvelle-France, ici, hein, c'est le Canada, on l'appelait la Nouvelle-France au 17e et au 18e siècle, on pourrait croire qu'ils vont adopter beaucoup les mœurs des Premières Nations, un peu comme ça s'est fait en Amérique du Sud, mais ça ne sera pas le cas. Les Français veulent manger comme des Français. Fait que, au début, peut-être que oui, ils vont se servir de quelques légumes, un peu de maïs et tout ça, mais très très vite. Dès qu'ils sont capables de cultiver du blé, ils cultivent du blé. Et ils apportent avec eux des animaux. Et ils vont faire pousser des pommes. Ils vont faire. Et tout de suite, ils vont se mettre à refaire une cuisine française. On va quand même s'adapter au climat, on va quand même s'adapter à la culture du pays. C'est-à-dire que, bon, la pêche, la chasse, quoi qu'on pourrait penser que les Français vont vivre beaucoup, beaucoup de la chasse au début, là, mais non, ils vont vraiment vivre du cheptel qu'ils ont. C'est pas des énormes mangeurs de viande au début, au 17e siècle. Ça va venir avec le temps. Donc, la cuisine vient surtout de la France, même du nord. On sait que c'est du nord de la France beaucoup. Une cuisine poitevine, une cuisine. C'est très apparenté, là, comme ça, là. Et puis, ben, le repas du Canadien au début, ça va être surtout du pain, en grande partie, jusqu'à 2 livres de pain par jour par personne. C'est énorme,
Il n'y avait pas
là.
d'intolérance au gluten à l'époque,
Et non, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas, puis il fallait pas, sinon tu survivais pas pantoute, là.
C'est ça.
C'est ça.
Mais du coup,
Fait que
pourquoi?
c'est énormément de pain. C'est quand même beaucoup de viande aussi. Ben, je dis, au début, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça va être supporté par de la viande, du lard salé, entre autres. Puis, ben, des soupes, du vin, hein, qu'on importe de France, bien sûr. On ne sera pas capable de faire du très bon vin ici. Jean Talon va essayer de partir une brasserie de bière. Ça ne durera pas. Ça ne fonctionnera pas tellement. Alors, les gens vont continuer à vivre un peu à la française ici.
Moi, je
Intéressant.
renchérirais tout de suite avec une deuxième question sur ces traditions-là qu'ils ont apportées de la France. Est-ce qu'il y a des traditions culinaires de l'époque qui ont survécu encore aujourd'hui?
Ah oui, tout à fait. Il y a des trucs qu'on mange encore aujourd'hui qui sont très traditionnels des débuts de la Nouvelle-France, comme le pot-au-feu, par exemple. L'espèce de ragoût de viande, légumes et tout ça bouilli longtemps, là, ça, c'est très, très, très traditionnel du 17e et 18e siècle. Donc, si on trouve ça, il y a des affaires qui vont changer aussi. Par exemple, on ne trouvera pas sur les tables en Nouvelle-France des patates, pas de pommes de terre au 17e et 18e siècle. Les Français la trouvent, ben, les Canadiens ici la trouvent sans goût, tout juste bonne à nourrir les cochons. Alors, ils vont la faire pousser, mais c'est pour donner aux cochons. Et pas de tomates non plus, qu'on croit trop acides, peut-être même cancérigènes. Alors, on va pas en manger. Alors, il va falloir attendre avant d'avoir ces ingrédients-là sur notre table. Attendre un petit peu plus tard dans le temps.
Au début, comment, quand on parle des Autochtones, évidemment, moi qui viens du Grand Nord, je ne suis pas vraiment liée à ça, mais il y a quand même dans la cuisine qui est quand même inspirée, c'est quand on parle de sirop d'érable, quand on parle, tu sais, c'est...
C'est un point extrêmement intéressant, Elisapie, parce que en effet, il va y avoir quelques jumelages qui vont se faire. Ça sera pas, ça, il n'y aura pas une grande influence des Premières Nations chez les Canadiens, mais il va quand même y avoir des échanges intéressants. Le sirop d'érable, c'est un bon exemple. Le sirop d'érable, c'est quel exemple culinaire de rencontre entre deux peuples? Parce que les Premières Nations, à cette époque-là, n'avaient pas les outils nécessaires pour faire bouillir l'eau d'érable. Assez pour avoir, ils n'avaient pas le métal, donc assez pour avoir du sirop ou du sucre d'érable comme on connaît aujourd'hui. Les Français vont avoir ça. Alors, au contact des Premières Nations, ils vont apprendre qu'ils peuvent avoir de l'eau d'érable, ils vont apprendre qu'ils peuvent la faire chauffer puis que c'est bon, mais eux autres vont la transformer jusqu'en sucre d'érable, qu'on appelle du sucre du pays à ce moment-là. Donc, c'est vraiment le contact des deux. L'autre affaire qui va rester, les courges, les haricots. Ça va rentrer dans les traditions culinaires des Canadiens. Et le maïs, pas sous la forme qu'on pense. Tu sais, il n'y a pas ça des épluchettes de blé d'Inde au 18e siècle, là, mettons, là.
Mais
Mais.
même en France, ils voient ça vraiment bizarrement,
Ah oui, et même encore, si on va en France aujourd'hui, non, non, c'est la nourriture à bétail, là. C'est pas la même affaire, là. Mais déjà, les Canadiens, au 18e siècle, utilisent le grain de maïs séché qu'ils mettent sous les cendres chaudes pour le faire éclater. Et ça
Oh.
devient du pop-corn.
Wow.
Excepté qu'à cette époque-là, on appelait ça, tenez-vous bien, c'est très joli, très poétique, on appelait ça du maïs en fleurs ou du blé
Ah.
d'Inde fleuri.
Magnifique.
Oh, beautiful, beautiful. Et là, comment est née la tradition du repas des fêtes? J'imagine vous pouvez me le répondre avec un peu de magie.
Oui, tout à fait. Avant, juste revenir sur une autre influence rapidement, le castor. Qui était mangé à l'époque, hein, et tout ça. Et là, on se posait la question parce que comme il y avait des journées jeûnées ou dans le calendrier catholique, on n'a pas le droit de manger de viande, ben on s'est posé la question si le castor est un animal aquatique. Et on a envoyé cette question-là à l'université de la Sorbonne à Paris au 17e siècle. Et la réponse est revenue que oui, c'est un animal aquatique. On peut donc le manger les jours de jeûne catholique.
Ah, j'adore.
Le castor est un poisson, ça, quand même. Donc, le repas de Noël, le repas traditionnel, comme on le voit là, c'est une grosse influence. C'est un melting pot, là. Faut le voir comme ça. C'est vraiment un mélange de la tradition française qui va se canadieniser, si on veut. C'est-à-dire qu'il va y avoir des influences et britanniques et américaines. Donc, quand on pense aux patates pilées, c'est très britannique. Quand on pense aux pâtes à la viande, c'est britannique. Les croustades, c'est britannique. Par contre, si on parle de ragoût, par exemple, ben là, on a quelque chose de typiquement français, comme on parlait tantôt du pot-au-feu. Si on parle des fèves au lard, le ketchup à l'ancienne, les carrés aux dattes, c'est tout américain, ça. La dinde, très américain aussi. Donc, c'est vraiment un mélange d'une culture nord-américaine. Ici, par contre, il va y avoir une différence au Québec, c'est qu'il va falloir s'adapter, surtout après à la crise économique des années 1930. Après le grand crash boursier de 1929, c'est les Canadiens français sont vraiment affectés par ça. C'est eux autres qui manquent de jobs, c'est eux autres qui manquent d'argent. Et là, on va commencer à créer des plats qui sont typiques, qui coûtent pas cher à faire, genre le pâté chinois va apparaître dans les années 1930. Genre le pudding chômeur, on se demande pourquoi ça porte ce nom-là, là. Qui, en passant, n'était pas fait avec du sirop d'érable, parce que je me suis toujours posé la question. Pour que quelque chose qui s'appelle du pudding chômeur, ça coûte cher à faire pareil, avec du sirop d'érable, parce qu'en fait, quand même, mais à l'époque, il était fait avec la cassonade, qui était beaucoup moins cher que le sucre. Donc, on économisait là-dessus. Là. C'était une pâte à gâteau cuite dans une espèce de cassonade mouillée. Donc, les gens s'arrangeaient avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. Là, vont naître certains plats typiques. Un autre plat qui s'appelle le chiard, qu'on ne mange plus aujourd'hui, mais qui est très bon. C'est des patates en cubes avec du porc haché, un peu d'eau, quelques herbes, et on fait cuire ça pendant à peu près 2 heures au four. Et c'est délicieux. Et c'est cheap. C'est vraiment pas cher à faire. Donc, le repas traditionnel de Noël, c'est le repas qui va prendre du temps à faire. C'est le repas qu'on va avoir les ingrédients qui sont locaux aussi. On n'est pas à l'ère internationale encore dans ces années-là. Donc, on garde beaucoup ces traditions-là, si on veut.
Moi, je te demanderais, c'est quoi l'importance, sur une population, mettons, c'est quoi l'importance des traditions culinaires?
C'est absolument vital parce que même quand on voyage aujourd'hui, ben là, on ne voyage pas aujourd'hui, là, parce qu'on peut pas, mais quand on voyage pour la nourriture en bonne partie, là, on découvre un pays par ses plats traditionnels. Quand
Complètement.
on va dans un restaurant, souvent, on essaie d'aller dans un restaurant qui est la cuisine la plus traditionnelle. Regardez les restaurants qui font les choses de façon très traditionnelle de leur pays, là, c'est les restaurants qui vont être les plus remplis, bien souvent. Et les plus remplis, et des gens de cette culture-là, et des gens qui recherchent des plats traditionnels. Donc, c'est vraiment l'âme. Moi, je pense à dire que la nourriture, c'est l'architecture de l'âme. Hein? C'est joli.
Oh, wow. Pour un
Hein?
gourmand,
Donc,
ça frappe direct, ça.
ça commence quand même, hein? Mais tu sais, un bon exemple, c'est la sauce à spaghetti de ta mère, là, il n'y a personne qui va être capable de la refaire. Jamais
Non.
personne. Fait que toutes les autres sauces à spaghetti dans ta vie, là, sont jamais aussi bonnes que celles-là de ta mère. Il y a quelque
Ouais.
chose dans l'âme, il y a quelque chose qui est incrusté dans la
Même,
nourriture. Alors, c'est super important.
moi, si je peux rajouter, tu vois, autant j'aime la bonne bouffe, les bons restaurants, j'aime bien aller manger chez des chefs, dépenser de l'argent pour voir comment ça peut être si bon. Mais en même temps, j'aime des affaires tellement de base. Un grilled cheese, lâche-moi avec tes fromages fancy. Faut du fromage orange dans du plastique, c'est ça que ça doit être. Alors, j'ai cette dualité en moi de très fin, très bon, mais de la scrap, c'est excellent aussi.
Ah, je suis tout à fait d'accord, tellement d'accord que oui,
Mais
le grilled
c'est
cheese.
relié à la tradition, peut-être de quand j'étais jeune, manger un grilled cheese à l'aréna, ce goût de margarine brûlée un peu, je ne sais pas c'est quoi en fait, mais il y a quelque chose dans cette tradition de la bouffe qui nous take comfort food, ça nous réconforte, mais pour une raison claire là.
Ben, faut pas oublier aussi que ça fait partie de notre histoire dès l'enfance, hein? Un enfant qui est élevé au Vietnam va avoir des goûts de peut-être tu sais, des sauces au poisson puis des trucs plus
Exact.
épicés. Un Québécois qui va être élevé sur du grilled cheese puis des hot dogs steamés, ça se peut qu'il ait le goût de revisiter ça dans
Ouais.
son dans son. C'est pas tout qui vieillit bien, par exemple. Tu sais, il y a des céréales qui, à Mâton, là, ça passe plus. Tu
Ouais,
sais,
Fruit Loops, ça rentre plus.
c'est ça
C'est
exactement.
drôle, on l'a découvert cette semaine. Alors, fais attention, Ah,
hein.
regarde, je vais te dire, c'est grandiose jusqu'à ce qu'il y a du sucre sur les dents après avoir fini le bol. C'est là que plus vieux, tu es comme,
On a.
Je peux pas faire ça à mon tour tous les matins, c'est
pas
possible.
On n'a pas le droit d'avoir ça à la maison. Et là, depuis 2 week-ends, mon chum, il a décidé, ah ouais, let's go. Et là, c'est le drame pour maman, mais je l'ai goûté. J'ai dit, ah oui, ce souvenir d'enfant.
C'est ça, oui. La nostalgie. Ben, merci beaucoup, Éric Michaud, ouais, pour ton apport essentiel quand on parle de bouffe. Élie Sapi et moi, on est contents, on va se le dire. Alors, merci de nous avoir parlé de ces traditions canadiennes et surtout, je vais aller penser à ce que je vais faire pour me replonger dans mon enfance ce soir.
Du castor, peut-être, hein? Du castor.
Ouais, peut-être. J'en avais pas dans mon enfance, mais peut-être.
C'est plus dur à trouver du castor au Maroc, je pense, probablement. Oui, ouais, c'est ça.
Ils sont moins agressifs sur le bois, je te dirais.
Oui. Alors, on vous souhaite bon appétit à tout le monde, puis allez redécouvrir vos vieux livres de recettes.
Yes, merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup. Vous avez envie de vous partager vos traditions ou apprendre plus?
Visitez le site web des rendez-vous de la francophonie au rvf.ca.
Bon rendez-vous!